petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Axel Kahn, mort le 6 juillet 2021 d'un cancer à l'âge de 76 ans, est une des personnalités les plus déroutantes de notre temps. Il n'est pas croyant, mais annonce sur les réseaux sociaux, 2 mois avant sa mort, sa totale sérénité face à celle-ci, la mort. Membre du comité consultatif national d'éthique, il milite malgré tout en faveur de la culture des plantes génétiquement modifiées, les fameux OGM. Grand généticien, mondialement reconnu, il s'oppose à l'idée d'un déterminisme total de l'homme par son génome et son ADN. D'abord communiste, puis socialiste, il participe médiatiquement à diverses élections, mais il n'est jamais élu et perd face à François Fillon aux législatives de 2012. Président de l'université prestigieuse Paris 5 Descartes, on lui reproche de ne pas avoir su prévenir le scandale des charniers universitaires, des corps humains remis à la science à Paris. Scientifique et philosophe, les deux, il termine sa vie comme président de la Ligue contre le cancer. Axel Kahn répétera souvent, sous différentes formulations, que, je cite, je prends une de ces formulations, l'individu humain ne se résume pas à ses gènes. Penser l'inverse, c'est ouvrir grande la porte au nazisme, à l'eugénisme et au darwinisme. Ça signifie que pour Axel Kahn, qu'il y a une liberté de l'homme, que notre vie n'est pas jouée d'avance par notre ADN. Il montre scientifiquement que la liberté n'est pas une illusion. Il rejoint en cela des philosophes comme Merleau-Ponty du XXe siècle, en parlant de l'homme comme projection d'un futur. Vers un futur. Je cite Merleau-Ponty. Si je suis dès ma naissance projet, impossible de distinguer en moi du donné, c'est-à-dire mon déterminisme, par exemple génétique. Donc distinguer en moi du donné et du créé, c'est-à-dire ma liberté. Impossible donc de désigner un seul geste qui ne soit qu'héréditaire ou inné, c'est-à-dire qu'il ne soit que génétiquement déterminé, et un seul geste qui ne soit pas spontané, c'est-à-dire créé, libre. C'est dans Sens et non-sens, édition Nagel, page 36. Axel Kahn explique exactement la même chose. Le déterminé et le libre se mélangent, se conjuguent dans l'être humain qui se projette vers un avenir. Cette idée est très importante. Axel Kahn n'est pas matérialiste, c'est ça l'important. Il ne réduit pas l'homme à des idéologies de type biologique, organique. Il y a une spécificité de la conscience humaine.
En
En tant que généticien, Axel Kahn s'intéresse bien sûr au potentiel des thérapies génétiques. Celle-ci implique que la médecine modifie le génome pour, dans certains cas, éviter des maladies. Je n'en cite aucune de maladies, car la recherche n'est encore qu'à ses débuts. Mais pourtant, Axel Kahn nous met en garde contre les manipulations génétiques sur les embryons humains, manipulation des gènes qui constituent, dit-il, une réification de l'embryon humain. C'est-à-dire, je traduis réification, c'est-à-dire une transformation de l'homme en chose, comme si l'embryon humain était comme un minéral, comme un minerai que l'on raffine à sa guise. Axel Kahn s'oppose d'ailleurs à la mode transhumaniste, du transhumanisme, cette idéologie scientiste qui, par manipulation génétique et implant numérique, veut transformer l'homme en surhomme, engendrant ainsi de très fortes inégalités, voire même d'horribles inégalités, entre l'homme et le futur soi-disant surhomme. Il est donc contre l'eugénisme, mais aussi contre l'euthanasie, à laquelle il préfère l'amélioration des soins palliatifs et l'affection d'un entourage. Pour ces mêmes raisons, du respect de la dignité de la personne humaine, Axel Kahn s'oppose au clonage. Rappelons que c'est un généticien, quoi, qui s'occupe que de ça. Au test génétique, pour vérifier, il s'oppose aussi au test génétique, quand ils servent à vérifier les filiations en vue du regroupement familial, et aussi il s'oppose à l'exhumation de cadavres d'Yves Montand pour vérifier à l'époque une reconnaissance en paternité, qui d'ailleurs n'a pas été vérifiée du tout. Axel Kahn se prononce pour un test prénatal de détection de certaines maladies, mais pas de détection des qualités ou défauts de l'enfant à naître. D'ailleurs, pour Axel Kahn, la dignité d'une personne n'est pas relative à ses qualités, défauts ou performances, ni à son ethnie, ni à son sexe, ni à sa classe sociale. La dignité pour Axel Kahn, c'est aussi le fait de rester digne devant la mort, c'est rester serein et ne pas paniquer. Effectivement, Axel Kahn nous fait part de son attitude vécue, c'est pas théorique, devant sa mort immédiate ou imminente en cette année 2021. En mai, je rappelle qu'il est mort en juillet, en mai, il envoie sur Facebook un petit texte intitulé « Le bout du chemin ». Texte d'autant plus admirable que 2 mois plus tard, Axel Kahn meurt en conformité avec ce qu'il avait écrit. Bref, une grande noblesse. En un premier temps, pour lui, la mort n'effraie plus, parce que elle est devenue, pour le cancérologue qu'il est, une banalité. Il a vu des morts en quantité. Il écrit « Elle ne m'obsède pas, il n'empêche que depuis longtemps, la curiosité de ce que sera mon attitude devant la mort. » Fin de citation. Mon attitude devant la mort, dit-il. Cela fait penser à la distinction qu'Heidegger, célèbre, fait entre un « on meurt », l'expression « on meurt » et « je meurs » dans « être et temps » Gallimard. Le « on meurt » est banalisation de la mort. Mais ce « on meurt » permet la dissimulation du « je meurs ». Or, Axel Kahn veut découvrir l'authenticité de la mort dans l'attitude devant ma mort et non pas le « on meurt ». Alors, quelle est cette expérience de ma mort prochaine ? Réponse, je le cite, « En fait, je ne ressens aucune anxiété ni espoir, je ne fais toujours pas l'hypothèse du bon Dieu, ni angoisse. » Mais qu'est-ce que cela révèle ? Peut-être pas tant une sérénité comme il le croit devant la mort. Pas tant cela qu'une démission de la vie, un abandon des soucis et des tribulations, une quête inavouée du néant. J'aurais tendance à faire cette critique à Axel Kahn. D'ailleurs, il dit lui-même, ce qui s'ajoute à la citation précédente, un certain soulagement. Un certain soulagement. Oui, c'est plutôt ça qu'une sérénité authentique. L'abandon et le soulagement. Il écrit aussi « Tout traitement est désormais sans objet ». Il parle de sa thérapie. Il est en phase terminale et c'est un cancérologue. Cependant, qu'Axel Kahn me pardonne, mais je ne sais pas trop à quoi ça rime et pourtant, c'est mon interprétation. En effet, Axel Kahn n'est pas si serein. Son frère, le journaliste Jean-François Kahn, est porteur d'un ultime message d'Axel. Ce dernier est en fait très anxieux. Très anxieux de la pandémie, du Covid. Et très révolté contre les anti-vaccins et les anti-passes. Et il s'en inquiète et donne un message à son frère. C'est pour lui, l'humaniste, l'irrationalité d'un anti-humanisme. Il est très inquiet, non pas de sa mort, là il a raison, mais par l'acte même au dernier instant de sa vie, de refuser l'abandon, refuser la démission. Axel Kahn, qui qualifie son humanisme de finalement, je le cite, assez proche de celui des chrétiens, aurait pu faire retour à la foi de son enfance et croire que sa dignité d'être humain est tellement absolue, c'est-à-dire indépendante de toute réussite ou de tout échec, qu'elle dépasse la finitude humaine pour entrer dans l'infini de l'éternité divine.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.